icône pour un acteur, c'est la personnalité. Ta présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu fais dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
On ne pourrait pas imaginer deux personnages si dissemblables. L'un vit dans l'obscurité d'une cave et de ses idées. L'autre tend vers la lumière. C'est une athlète spirituelle. Nous les avons réunis ce matin dans ce studio. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Un couple décide de vendre une cave dans l'immeuble où ils habitent. Peu à peu, la présence de cet homme dans la cave va bouleverser la vie de cette famille. Bonjour François Cluzet.
Bonjour.
C'est vous, cet ex-prof d'histoire aux idées négationnistes et qui va devenir une obsession. L'homme de la cave de Philippe Le Guay sort mercredi prochain. 35 ans après sa sortie, restaurée et d'une beauté intacte, le film Thérèse ressort en salle et en coffret DVD Blu-ray. Bonjour Alain Cavalier.
Bonjour.
La vie de Thérèse Martin, non pas le portrait d'une sainte, mais celui d'une adolescente, amoureuse, drôle, enthousiaste, têtue. Thérèse avec Catherine Mouchet sur les écrans depuis mercredi, tout comme James Bond, Tralala, mon légionnaire, petite sœur, ou Gaza, mon amour. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Il y a un problème là, c'est pas possible.
Mais quel problème, monsieur Sandberg?
On vous a vendu cette cave pour entreposer des meubles, des archives, pas pour y vivre.
Vous croyez que ça m'amuse de dormir ici? On m'a promis la location d'un studio, évidemment. Les gens font des promesses, les tiennent pas. Ils mentent tout le temps, les gens. Ils passent leur temps à mentir. Bon, c'est pas pour vous, je dis ça. Vous avez été assez aimable, vous m'avez rendu service.
Vous pouvez pas aller à l'hôtel?
Je regrette, j'ai pas les moyens.
Ah, mais il y a des maniaques du règlement dans cet immeuble, vous avez pas idée. Si vous restez ici, ça va faire toute une histoire.
Mais qu'est-ce que ça peut faire que je sois ici? Je dérange personne.
Mais pas dans cette cave, il y a un minimum de décence à avoir, même pour vous.
Je dérange personne.
L'histoire est réellement arrivée à un couple ami de Philippe Le Guay, il la raconte et la fictionne dans ce film L'Homme de la Cave. Cet homme, c'est vous, François Cluzet. Alors, qui est ce Jacques Fonzic? Comment vous l'a décrit, Philippe Le Guay? Et vous, comment vous l'avez habité et investi?
Bon, c'est pour le moins, c'est un type très singulier. Un type qui arrive pour acheter cette cave. Et dès lors qu'il a donné le chèque et qu'on lui a rendu les clés, il va s'y installer. Et en s'y installant, évidemment, la plupart des locataires, propriétaires de l'immeuble vont commencer à râler. Pourquoi? Parce que il y dort, il y fait un peu sa cuisine, et puis il va aux toilettes dans la cour. Bon, alors tout ça se dit, et puis à un moment donné, Jérémy Renier, qui joue le rôle du vendeur, si j'ose dire, commence à se poser des questions, puisqu'évidemment l'immeuble se retourne contre lui en disant « mais c'est vous le responsable ». Finalement, on va découvrir que ce type a une haine enracinée profonde. Il s'agit certainement d'un raté, qui cherche un responsable, un raté qui se pose en victime. Et de ce fait, la conversation, le conflit qui va naître entre les deux et entre l'immeuble et lui va être d'un aigu grave, irresponsable, avec des phrases qui sont lâchées, qui prouvent que le type a dans le ventre une haine profonde pour les gens qu'il estime responsables de son échec. C'est un très très beau rôle. J'aime beaucoup le film parce qu'il me semble qu'il est précis, il est mis en scène. Il y a dans la mise en scène une espèce de bouleversement qui rend le film un peu comme un thriller de suspense où on apprend toutes les 10 minutes un élément, action, réaction. Et puis il nous emmène dans cette cave où finalement va se régler l'histoire dans une violence. Il n'y a pas de mort, mais il y a peut-être presque pire, une extermination de la pensée, de la liberté, quelque chose qui revendique comme ça. C'était tout à fait passionnant d'avoir la responsabilité de jouer ce rôle.
Cet homme aux idées horribles a une voix pourtant extrêmement douce.
Oui, ça c'était peut-être le plus intéressant du travail avec Philippe Le Guay, c'était l'idée d'un héros au cinéma, toutes les qualités, certes, mais enfin, l'homme parfait n'existant pas, est-ce qu'on peut penser qu'un monstre ou un type infréquentable aurait, lui, tous les défauts ? Non. De surcroît, il faut qu'on puisse lui donner une ambiguïté. Un acteur, un personnage, c'est souvent complexe et ambigu. Donc, de ce fait, le type c'est bien débrouillé, quoi. Philippe le voulait sobre, habillé, digne, propre.
Les cheveux longs,
très agréable. Oui, les cheveux longs parce qu'on a un côté atypique et qui ressemble un peu à de la misère aussi. C'est-à-dire, le manteau, on a dû lui donner. Les cheveux, il a longtemps qu'il n'a pas été chez le coiffeur. Et tout comme ça. Et ce qui est passionnant, c'est de construire avec un metteur en scène un personnage qui, de fait qu'il doit être crédible, finalement lui a trouvé pas mal de gentillesse. Il parle tout doux. Mais moi, dit-il à l'adolescente, je pose des questions, on n'a pas le droit de poser des questions. Mais à vrai dire, et c'est ça l'intérêt du film, il remet tout en question.
Justement, sa séduction, sa rhétorique va fonctionner auprès de l'adolescente, comme vous le dites, du couple.
Je voulais vous demander... Comment vous faites dans la cave ? Enfin, pour vous laver et tout, c'est...
Je vais au bain-douche. Tu sais, moi, je fais très attention à la propreté. Si tu savais comme les gens sont sales. Ma femme, elle adore prendre des bains, mettre de la mousse, elle restait des heures.
Vous avez été marié ?
Ah oui. Et avec une belle femme, encore. On vivait en Belgique, côté de Gand. Ma femme, tu sais, elle était comme moi, hein. Se laissait pas impressionner par les idées toutes faites. Hein. C'est un esprit libre. Hein. Et puis elle est morte. Dans un accident de voiture.
Je sais pas si vous mentez ou si vous dites la vérité.
Moi je dis toujours la vérité. C'est ça que les gens n'aiment pas. Toutes ces choses vraies qu'ils ne veulent pas entendre. Allez hop. Sous le tapis, la poussière. Bon, la poussière elle reste là. Puis les gens la respirent. Ils se rendent pas compte. Hein? Tu me verras, au moins dans une cave, il n'y a pas de tapis, donc il n'y a pas de poussière.
Mais il y a des rats.
Les rats. Enfin, les rats, au moins, ils sont solidaires, ils se tiennent les coudes. C'est pas comme les humains. Moi, j'avais des gens qui devaient m'aider à me trouver un logement. Tu parles. T'as jamais été trahi, toi, par ceux qui t'aiment ?
Ça vous regarde pas.
L'homme de la cave, Philippe Le Guay. François Cluzet, en fait, il ne tient pas de propos négationnistes. Ce sont les autres qui les expriment presque à sa place. C'est fou.
Oui, dans ce grand tourment d'une violence folle, quand il n'est pas là, on parle de lui. C'est-à-dire, ça tourne à l'obsession. Et évidemment, on le cherche. Qu'est-ce qu'il a, ce gars-là ? Qu'est-ce qu'il a de travers et tout ça ? Et puis, ça commence par le fait que, comme on lui interdit les toilettes du rez-de-chaussée, de l'immeuble, alors il va nécessairement au petit bistrot à côté. Et puis, alors là, on a la réflexion du barman qui dit, je sais pas ce qu'il a, ce gars-là, mais vous le connaissez, il habite dans votre immeuble, ben, il vient tous les jours aux toilettes. L'autre jour, je lui ai dit, vous pourriez consommer quelque chose ? Il m'a dit, ça va, sale bougnoule. Boum, déjà. Le racisme. Et ensuite, ce type-là n'est pas procédurier, mais si on lui cherche des poux, il connaît la loi mieux que personne. Donc c'est vraiment un type très dangereux, sous couvert de paraître tout à fait accessible, intelligent, réservé, à l'écoute. Et puis petit à petit, on va descendre au centre de lui-même, au sous-sol de lui-même, pour finalement... Non, pour finalement découvrir la victime, puisqu'il se pose en victime.
Oui, il y a la tentation d'humaniser un salaud dans ces cas-là ?
Oui, bien sûr. Par souci de crédit pour l'acteur, pour le film, et puis aussi parce que, comme je le disais, la nature est imparfaite. Ça n'existe pas, le salaud sans qualité. Et comme il s'adresse beaucoup dans le film à une adolescente, il fallait qu'on puisse l'écouter. Donc de sorte, ce type-là a certainement compris, je crois pas que c'est qu'il faut être doux. Sans aucune agression. Parce que si vous êtes doux, n'est pas l'agression. Il n'y a aucune raison que les gens fuient. Et c'est comme ça. Je pensais à un truc comme ça, c'est comme un boa constrictor, m'a dit un journaliste l'autre jour. Il a raison. Dans le roman de Kipling. Donc il fait des yeux doux, il ferait presque la danse des sept voiles pour séduire. Et puis il s'enroule autour d'une jambe. Et puis il monte. Et il a plus qu'un... un élément pour vous étrangler. Il y a un truc comme ça terrible.
Et pour faire le tour de cet homme, vous vous êtes, je suppose, renseigné sur le négationnisme ?
Oui, et puis Philippe, vous savez que t'es un metteur en scène très cultivé, m'a donné pas mal de bouquins, et puis à cette femme, à la Migounet, c'était très intéressant évidemment d'apprendre des choses, parce qu'il y a encore des choses à apprendre, et puis ensuite de se révolter en essayant de dire je vais mettre toute mon énergie. Philippe aussi voulait faire ce film aujourd'hui, ce qui correspond à tout cette pollution qu'on entend. Et puis moi j'avais à cœur de défendre un rôle comme il y en a rarement, puisque finalement les salopards, les fieffés salopards, vous n'en avez pas. Beaucoup. Et venant du théâtre, j'en ai déjà joué et je me régale à ça. C'est comme si je me purgeais moi-même de cette haine que je ne sais pas remonter.
Il y a, je t'excusais, dit Le Gay, il y a cette lueur assassine dans le regard. Quelque chose qui fait peur. Vous êtes conscient de ça. Je discutais avec une journaliste avant et elle me disait, ah, Cluzet, on se dit, mais où est-ce qu'il va m'emmener à chaque fois?
Bah tant mieux, écoutez, c'est plutôt mieux, parce que oui, par définition, les films, on a envie que ça continue. Ouais. Il y a toujours un suspense dans un film ou une très belle image qui donne envie de voir la suite. Hein, c'est un long processus. J'apprécie qu'on dise ça. Non, moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'interprétation. Je me fixe à l'interprétation, et ce qui m'intéresse, c'est d'être l'interprète le plus fidèle de ce qu'a écrit le metteur en scène. Et là, en l'occurrence, il est l'auteur et le metteur en scène. Et donc, on ne voulait pas du tout faire une performance avec ça. On voulait donner certainement le traitement d'un être singulier dans cette situation. Et Philippe a été d'un grand secours, d'une grande force pendant le tournage. Et puis, il dirige, j'aime beaucoup la façon dont il le fait. Dans notre film précédent, Normandie Nue, j'avais fait un contresens. J'étais très très content, parce que c'est vraiment le problème des acteurs, c'est de faire un contresens. La façon dont il a retourné la situation en disant « non, c'est pas ça ». Je sais pas, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. D'abord, j'aime beaucoup ses films. Et puis ensuite, ce personnage, c'est quand même une très bonne responsabilité de me confier le rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Je viens du théâtre, peut-être est-ce qu'il a pensé que je pouvais le construire aussi bien qu'un autre. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je travaillais 3 mois tout seul.
Alors, c'est quoi votre méthode?
Ma méthode, c'est l'incubation avant l'incarnation. C'est l'étude du personnage un peu à la manière de Chabrol en entomologiste. Et alors là, évidemment, le problème que ça pose, c'est qu'on ne sait pas qui est-ce, puisque les monstres ne sont pas remarquables dans la foule. Qui est monstrueux, qui est saint, qui est une femme magnifique, qui est la dernière des dernières. Donc c'était intéressant par imagination de se dire quel est le portrait type physique de ce type-là, sans tomber dans le cliché, mais toutefois en y étant un peu pour que tout de suite les gens y croient. Et puis ensuite, c'est tout ce qui se passe. Je suis une victime. Voilà, ça ne changera jamais. Moi, cette cave, je l'ai achetée avec mes économies et vous voulez me la reprendre. Mais c'est tout ce que j'ai. Vous voyez, toujours cette posture de victime. Ils sont vraiment les salauds, ils sont comme ça. C'est-à-dire, vous savez, vous me faites tellement de mal que je vais essayer de te... Il y a une espèce, je sais pas comment vous diriez ça, vous avez plus de vocabulaire que moi. J'attends ce que vous allez dire, mais moi je peux vous dire simplement mon enthousiasme.
Mais moi je parlais aussi d'une méthode précise que vous avez.
Alors, méthode très scolaire. D'abord, je ne m'occupe pas des dialogues. J'enlève tous les dialogues. J'essaye de voir qu'est-ce qui peut se jouer en muet. Je déteste avoir quelque chose à dire si le corps peut le dire à la place. Donc je discute toujours avec les metteurs en scène, je n'impose rien. Je note toutes mes questions, je lis plusieurs fois, même plein de fois le script pour essayer de m'immerger dans l'histoire. Ensuite, je pose mes questions au metteur en scène qui me répond, je renote, je relis, je retravaille et je mets les dialogues de côté. Ensuite, je vous fais vite. Sur les dialogues, c'est sacré pour moi. J'essaye, comme je vous le disais tout à l'heure, Peter Brook enlevait la ponctuation, ce qui rend le texte inintelligible. Et moi, j'ai fait un peu la même chose, c'est-à-dire que je vire tout intelligibilité du texte. Et j'apprends syllabe par syllabe. J'ai rien inventé, c'est la méthode de Jean-Laurent Cochet. On marche un texte syllabe par syllabe, sans lui donner d'intention, sans qu'on comprenne ce qu'on dit. C'est une espèce de comme un musicien avec une partition des notes, on essaye de prendre syllabe par syllabe des sons. Bonjour, madame, sans aucune intelligibilité. Puis une fois que vous savez ça, après l'avoir copié, parce que je le copier énormément, la plus belle écriture pour me concentrer, et mon père pour finir m'apprenait que la mémoire, elle est visuelle, elle est auditive et elle est écrite. Oui. Et si vous mêlez les trois en même temps, évidemment, le texte revient. J'aime beaucoup ça, j'aime pas du tout m'embarrasser tout ça. Et puis ensuite, quand j'ai l'impression d'être à peu près prêt, j'essaye de vivre. C'est tout. Je vis ce que j'ai emmagasiné, aussi bien. Et puis des fois ça marche, puis des fois bon, c'est moins bien. Et puis c'est formidable de travailler avec un metteur en scène qu'on admire, mais aussi avec lequel on a une vraie confiance. Parce qu'à ce moment-là, on peut facilement sortir de la maîtrise. Moi, ce qui me plaît pas artistiquement, c'est la maîtrise. Parce que ça, c'est pratiquement anti-artistique. Il faut la déborder. Il y a peu de metteurs en scène qui vous y poussent. Peu. Et ça, c'est une grande chance. Quand d'un seul coup, vous vous sentez libre. Libre d'entrer dans le personnage, d'avoir même des émotions accidentelles. Vous voyez, bah la vie, après tout, qu'est-ce qu'on demande à un interprète? Pourquoi on l'engage? Pour qu'il amène la vie. C'est tout ce qu'on lui demande. On ne demande pas de mettre son grain de sel, ça c'est l'auteur, le metteur en scène. D'être suffisamment disponible pour que justement le metteur en scène puisse, avec souplesse, vous diriger, reprendre des morceaux que vous avez oubliés, des intentions dans le texte, tout ça c'est tout à fait passionnant.
Alain Cavalier, vous en pensez quoi de tout ça? Cet acteur qui travaille de cette façon-là?
Mais toute forme de travail,
oui.
Est, hein,
mérite respect.
Et tout film est différent, et hein. Et quand je pense à Catherine Mauché avec qui j'avais travaillé, c'était totalement différent de vous. Je ne savais pas du tout le travail personnel qu'elle faisait. C'était un grand plateau de 800 mètres carrés. On n'occupait qu'une seule partie qui était éclairée. J'avais un fauteuil au fond. Elle était dans l'ombre. On lui faisait signe quand on était prêt. Elle arrivait. Et puis... la caméra, je disais, la caméra tournait, on faisait pas de clap avant, sur son visage. Et quand elle était, elle disait, et elle faisait son travail, du plan. Et elle retournait s'asseoir sur son fauteuil. Et jamais il n'y avait de deuxième prise. Parce que elle avait une note, sa note à elle, et que ça fonctionnait pour le film. Je ne l'ai jamais dit, plus vite, moins vite. Je n'ai jamais su ce qu'elle pensait du personnage. Je savais qu'elle avait une éducation chrétienne, c'est tout. Donc, qu'elle savait à peu près de quoi elle causait, quoi. Je suis tombé sur ça. Mais j'ai tourné avec d'autres acteurs où les problèmes étaient chaque fois différents, parce qu'ils étaient différents. C'était des personnes différentes.
Bien sûr, une aventure à chaque fois, une espèce de traversée.
On écoute un dernier et nouvel extrait de L'Homme de la cave avec vous, François Cluzet.
Je te propose quelque chose. Je te donne deux fois le prix de la cave et tu pars là tout de suite.
Pour aller où?
Tu prends une chambre, un studio, je m'en fous.
Mais quoi, un studio, je vais y rester quoi, un an ou deux? Alors que dans la cave, je suis chez moi, je suis propriétaire.
Non, t'es pas propriétaire. On va avoir ta peau au tribunal et tu seras obligé de partir.
La seule chose que je possède, c'est cette cave. Même ça, vous voulez me le voler? Fermer les toilettes, m'obliger à faire mes besoins comme un animal. Et après, vous me faites des cours de morale.
T'as fait un tag raciste sur ma porte. Fini.
Je vois pas de quoi vous parlez. Ben non, il y a peut-être des gens qui aiment pas les juifs dans l'immeuble. Demandez à monsieur Leroux s'il les aime. Il dit que vous le harcelez pour un prétendu dégât des eaux.
C'est tout fait exprès, hein? Ça te fait jouir d'être dans la cave d'un juif? C'est pour ça que t'es venu?
Oui, allez-y, allez, frappez, si ça peut vous soulager. La violence est le seul recours de ceux qui ont tort. Vous dites qu'on vit dans une démocratie, mais c'est de la blague. Dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, dès qu'on refuse les idées reçues, on est traqué comme un chien.
Bah, votre méthode, elle marche bien, François Cluzet.
Disons qu'à vrai dire, peut-être qu'elle marche pas, mais elle me permet de me concentrer bien en amont. Je crois qu'il faut se prévenir bien en amont des scènes. Par exemple, dans Ne le dis à personne, j'avais à la fin une scène de craquage où le type retrouve sa femme alors qu'il n'en avait plus d'espoir. Et c'était écrit qu'il craquait en pleurs et tout le machin. Bon, bah, vous avez beau le travailler 3 mois avant pour ne pas le fabriquer en espérant qu'il sorte pratiquement d'instinct. C'est un travail de confiance avec soi-même. Il faut avoir l'instrument assez fiable. Pour ça, faut éviter de jouer dans la vie avec cet instrument. Il faut le laisser bien au repos pour essayer qu'il donne le meilleur de lui-même, le plus frais, le plus convaincant et surtout le plus abandonné, le plus spontané. Je crois qu'un interprète, le meilleur interprète, c'est encore celui qui est spontané.
L'Homme de la cave sort mercredi prochain.
Vous voulez me dire quelque chose?
Non, ma mère. Je voulais vous dire, j'ai fait un rêve. Hein. Vous donniez à chacune de nous un cadeau. Mon tour arrivait, il n'y avait plus rien.
Alors?
J'ai honte. Non, j'ai pas honte, j'ose pas.
Soyez pas négligée, faites les négations. Dites, je n'ai pas honte, je n'ose pas.
Mon tour arrivait, il n'y avait plus rien. Vos mains étaient vides. Vous m'avez souri. Vous m'avez dit, je vous donne mon cœur. Un cadeau pareil, c'est une aubaine. Je veux devenir une sainte, ma mère.
Orgueil.
Oh non. Je veux devenir une grande sainte en cachette. Personne n'en saura rien, sauf lui. Je n'aurai aucun mérite, ma mère.
Ne dites pas ma mère à tout bout de champ. Je refuse de vous considérer comme une enfant. Vous avez une nature forte. Je ne craindrai jamais de vous humilier. Vous êtes la dernière de la maison. Vous êtes la servante de chacune ici. C'est ainsi que vous serez heureuse.
Thérèse, souvenir Cannes 86, un film tombé du siège, je me souviens de tête à tous, après cette projection de presse, une révélation. Et celle d'une actrice, Catherine Mouchet, elle repartira avec le prix du jury. Thérèse, Alain Cavalier, la vie en 1h30 minutes de Thérèse Martin qui entre au couvent à Lisieux, avec trois de ses sœurs à la fin du 19e et qui mourra de la tuberculose à 24 ans et déclarée sainte en 1920. Avant de revenir sur le film, Alain Cavalier, pourquoi le restaurer? Il était si abîmé que cela après 35 ans?
Ça a été tourné en argentique, c'est-à-dire en film.
Oui.
Et maintenant, les projections se font en numérique. Et on a la possibilité, avec le numérique, de modeler un petit peu l'image, de remodeler un petit peu l'image. Alors, comme vous travaillez, on est des ouvriers, c'est-à-dire qu'on travaille, on a 10 semaines pour faire un film. Donc, on laisse passer quelquefois des choses, on n'a pas le temps. L'essentiel est assuré, donc...
Qu'est-ce qu'on restaure, alors?
Il y a un petit peu trop de lumière sur la gauche, là.
On peut l'enlever.
On peut la sauveter un peu.
Ouais. Hein.
C'est le plan est un peu large, alors on peut le réduire un tout petit peu. On peut intervenir. L'ensemble est un peu gai, on le voudrait un peu plus triste, alors on l'assombrit légèrement. On fait toute une série de petites corrections avec le temps, et puis on n'est pas les mêmes devant le film.
Bien sûr.
Voilà.
Alors, ce qui est fou, le film ressort donc en salle et en DVD. Il ressort avec une audio description. Je ne sais pas si vous avez maîtrisé cette version pour les aveugles.
Non, mais c'est une personne qui a fait une description, ouais, du film pour les aveugles qui ne font qu'entendre et qui ne voient pas.
Eh bien, on va écouter.
Armée de ciseaux, une main sous le menton de Thérèse, elle lui relève la tête. Dans un linge à hauteur du cou, les mèches coupées. Thérèse rayonne, puis son regard se voile. Visage souriant, la prieure, sœur Marie et Pauline sont penchées au-dessus de Thérèse. Lucie, la petite nonne, grimace, comme démangée. Thérèse a le regard dans le vide. Deux mains lui enfilent la toque blanche. Seul l'ovale de son visage reste visible.
Prenez le fardeau léger de Jésus. Ceux qui suivent l'agneau sans tache feront partie de son cortège éclatant de blancheur.
La prieure agrafe sur le devant le manteau immaculé. Sœur Marie ajuste une couronne de fleurs en tissu. Pauline et Marie embrassent Thérèse, les joues, une main. En retrait, la prieure observe les trois sœurs heureuses.
C'est comme un deuxième film sur votre film.
C'est la meilleure version. C'est la plus suggestive. Hein, seule l'oreille. Hein.
Oui.
Et on n'a pas l'oreille et le nuage. Ouais. Hein.
35 ans après, vous dites, j'ai trouvé le film exactement semblable à ce que j'étais il y a 35 ans.
Ben oui, c'est un peu des documents, des documentaires sur notre état à cette époque-là.
Non, mais c'est intéressant,
oui,
c'est
mais
pour les cinéastes, voilà, se disent, ouais, j'aurais dû faire comme ci, comme ça. Là, vous êtes raccord avec vous-même et avec le film.
Oui, mais c'est parce que je pouvais pas le faire autrement.
Ouais.
Hein? Simplement. Je ne pouvais pas, à cette époque-là, je ne pouvais faire que ça.
Et maintenant, vous le feriez autrement?
Ah ben maintenant, je ne le ferais pas du tout.
Ouais.
Hein, parce que il faudrait un acteur, il faudrait un studio, et je ne travaille plus avec les acteurs.
Ouais. Hein.
Pas parce que je les adore, mais pour d'autres raisons.
Et, pour quelle raison, alors?
Et je travaille seul.
Pour quelle raison, demande Claude Puzet?
Eh bien, un jour, je me suis trouvé devant une scène que j'avais vécue et que j'avais transcrite dans un film, dans une action. Et puis, je regarde, j'étais à côté de la caméra, et je me souvenais de ce que j'avais vécu personnellement, et je vois tout d'un coup quelqu'un, entre mon souvenir et ce que je propose au spectateur, qui prend ma place.
Et je me suis dit, mais pourquoi c'est pas moi? Ça serait presque plus juste, non pas par rapport à mon émotion bien de sûr, base, pas sûr. Du tout par rapport à, la, à une qualité de jeu.
Oui.
Et ça, petit à petit, ça fait du chemin en moi. Et un jour, la technique a fait qu'on a été propriétaire de notre outil, finalement, dans la main, sans équipe, sans rien. Et je me suis dit, ben, je vais aller directement à ma vie. Au lieu de la reproduire, comme je le faisais avant, avec des acteurs et avec un scénario. Voilà, c'est tout.
Est-ce que Thérèse vous a mené vers un chemin ?
François Cluzet dit « mouais ».
Non mais, je n'exclus absolument pas. Et on me demande toujours si mon, je reviendrai avec... Peut-être...
Ma patère avec Vincent Lindon, par
j'ai
exemple.
J'ai fait un film avec Vincent, ouais. Après avoir pris cette décision longtemps avant. Mm. Mais c'est Vincent et moi dans la vie... D'abord, oui. Et on se montre des coups tous les deux.
Bien sûr.
Hein, c'est pas un film d'un acteur auquel on demande de prendre en main un être humain et de convaincre le spectateur.
Voilà, c'est un acteur, très bon acteur. Mais vous savez, moi, je vous ai découvert au moment où je débutais dans un film que j'ai beaucoup apprécié. C'est Le Plein de Super. Mmh. Parce que Le Plein de Super, on a quatre acteurs dont on sait que juste après, ils devraient devenir des acteurs populaires. Mmh. Et vraiment, quatre acteurs, moi je l'ai... C'est juste mes frères, hein. Ils ont 3-4 ans de plus. Hein. Ouais. Et j'aimais beaucoup, beaucoup le film. Alors, j'ai vu Martin et Léa derrière. Ben, vous confiez des tâches très, très importantes aux acteurs. Et finalement, ils ont été assez fidèles. Vous avez des grands interprètes. Hein. Ce sont pas des gens qui mettent leur grain de sel, qui détournent le propos, qui vous trahissent. Un bon acteur, c'est quand même quelqu'un qui peut apporter, j'allais dire, presque physiologiquement, au-delà de la maîtrise, des choses qu'aucun autre amateur ne pourront vous donner.
Et plus que vous ne pensez. Parce que quand j'ai fait Le Plein de Super et Martin et Léa, j'ai travaillé entièrement le scénario avec eux.
Oui.
Pendant deux mois, on s'est vu tous les jours avec ces quatre jeunes gens qui sortaient de leur école.
Et nous, on était très jaloux.
Sur eux-mêmes, sur leur propre langage, avec une petite intrigue, effectivement, pour tenir un peu la route du récit. Mmh. Mais c'est entièrement un portrait d'eux. Mmh. Et moi, j'avais eu des problèmes avec un acteur qui s'appelle Alain Delon, je vais le dire aujourd'hui. Mmh. Hein. Je faisais un film avec lui, il faisait le rôle d'un militaire qui avait fait la guerre, et qui... Et ce qui m'intéressait, c'était lui. Et entre les prises, je regardais comment il bougeait, et je me disais, pourvu que ça soit dans le film. Et un jour, ce regard-là l'a gêné un jour. Et il s'est mis à me dire, très haut, pour que tout le monde entende, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça ? Authentique. Et ça a été, tout d'un coup, j'ai sursauté. Je ne suis pas Sacha Guitry. Je n'ai pas le don de la répartie, hein. Et je l'ai eu cette fois-ci. J'ai dit, très fort, aussi fort que lui. Et s'il écoute là, il le saura que c'est vrai. Parce que je suis payé pour ça. J'ai pu après le regarder tranquillement. Mais c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que, le bonhomme. Alors, parce que je me disais, comme vous, des soldats qui abandonnent la guerre, ça peut être tout le monde et chacun est différent. Il n'y a pas un prototype à jouer et à imiter. Hein. Un avare, il y a tout le monde est avare, tout le monde ne l'est pas. Ça vous le savez mieux que moi. Hein. Donc, c'est la personne qui joue pour un cinéaste. Pour moi. Et tant que je suis dans les marques de son portrait à lui, le film tient le coup. Voilà.
Là, c'est le portrait d'une sainte qui n'est pas filmée comme une sainte. Le défi, c'était de filmer l'invisible, quoi. L'invisible qui est sa foi et son amour.
L'invisible, ça, nous... l'invisible, c'est les corps humains. Hein. Les gens ont peut-être des grandes pensées, hein, mais nous, hein, on filme un visage, on filme des mains, on filme, et puis on doit rendre compte d'autres choses, et ça, c'est un peu compliqué quand même. Hein.
Catherine Mouchet.
L'infini, l'éternité, on ne sait pas très bien ce que c'est. Cinématographique. Quoi.
Et votre poésie apporte aussi votre singularité, votre caractère, votre personnalité. Elle touche à la grâce. Oh. Vous êtes arrivé à obtenir d'un interprète comme Catherine Mouchet des choses qui nous ont tous, les interprètes, laissés sur le cul. Hein.
C'est vrai, je suis très matérialiste. Le jour où je l'ai vu sur la scène du conservatoire, elle était à élève au conservatoire de Paris, et les élèves passent de temps en temps des scènes, et puis il y a des gens qui sont invités. Quoi. Et elle était assise sur la scène, assise sur le sol, avec un petit ballon entre les jambes, qui devait être fendu en dessous, et de l'eau coulait régulièrement. Et c'est là où j'ai appris que les scènes étaient un petit peu en pente vers le public. J'étais au deuxième rang. Et elle disait la mort de Mouchette, cette petite fille qui se suicide à 12 ans en se jetant dans l'eau, hein, en se roulant. Et là, voilà. En fait, j'ai fait le film ce jour-là, en fait.
Oui.
Dans cet accord avec elle. C'était d'abord ça, j'ai décidé de faire le film, et ensuite je savais que ça serait elle qui en serait le poumon, les yeux, la respiration, la voix,
et l'humour
et tout.
Je deviens idiote. On me dit tendez à la perfection. Qu'est-ce que je vois? Un fil tendu. C'est toute ma vie spirituelle.
Elle est toute petite.
On n'a pas de grande pensée. Pourtant, je me donne du mal. Personne ne le voit.
Ah si, lui.
Oh, lui.
Prenez-le par les caresses, c'est comme ça que je l'ai eu.
Je ne suis pas son genre.
Mais vous lui plaisez?
Il vient plus à mes rendez-vous.
Il se cache, il va revenir, il est pas loin.
Alors là, je ferme ma porte.
Il se traînera à vos pieds?
Oh oui, à genoux, lui aussi, ça lui fera du bien.
Il vous mendiera un regard.
Oh oui, oui. On est tombé sur la tête. On en passe pour un type qui est mort il y a 2000 ans. On n'est même pas sûr qu'il existe.
Mais si.
Tout ça, c'est de l'imagination. Si vous saviez ce que je fais la nuit,
ça ne vous rend pas sourde?
Je m'en veux.
Vous lui enlevez seulement un peu de sa part.
Je suis très sévère avec moi. J'en ai mis partout.
Vous croyez que ça le charme?
Je l'aime bien un peu vache, sinon c'est la débandade.
Alain Cavalier, est-ce qu'avec Thérèse, vous êtes entré dans une autre forme de cinéma, avec cette sobriété, cette absence de mur, cette simplicité, est-ce que ça vous a amené vers ce que vous faites maintenant?
Oui et non. Non, parce que j'ai visité quand même, j'allais dans il y avait une petite bibliothèque au Carmel de Lisieux, où des chercheurs sur Thérèse, puis moi j'y allais de temps en temps, puis là, la prieure m'a dit de venir visiter parce qu'elle pensait que j'allais faire un film. J'ai visité le couvent. L'idée de ces portes qui s'ouvrent, de ces petites cellules de 3 mètres sur 3, tout ça, j'avais l'impression d'avoir vu 50 films, soit de prison, soit de couvent, soit de... Et il fallait que je trouve autre chose. Alors je ne faisais pas le film. J'étais tenté de faire le film, mais je ne le faisais pas. Et puis, je suis tombé sur des peintres comme Manet, qui avaient des fonds, des personnes très réalistes au premier plan, et derrière, un fond neutre, mais très travaillé et très vivant. Alors, faire un film en se passant de fenêtres, de portes, d'arbres, c'est quand même une décision un peu costaude. Et il faut suivre aussi, d'une façon réaliste, le déroulement des événements. Alors ça pose des petits problèmes assez intéressants pour les cinéastes.
Et c'est ça qui vous enrichit humainement, artistiquement, d'être un peu ce chercheur. Parce que votre cinéma, c'est un cinéma unique. Personne ne fait ça. Et vous vous y trouvez épanoui. Jamais vous n'êtes tenté à essayer de vous dire que vous pourriez atteindre un public plus large et tout ça. Vous êtes d'une rigueur et d'une fidélité avec vous-même extraordinaire, remarquable. Je crois que si on vous admire, c'est en partie pour votre caractère. Vous êtes dans un bloc.
Comment
vous êtes passé de ces premiers films à Thérèse? Avez eu une révélation.
Attendez. Moi, je suis quand même un homme de spectacle, hein. Et Thérèse a fait 1,5 million d'entrées en France.
Oui, bien sûr.
Il y a une version anglaise qui est sublime. Et avec le doublage est formidable, qui assure la fortune du film dans le monde entier. Et donc, je suis devenu ce jour-là quelqu'un qui était aussi un homme de spectacle pour les gens. Et à mes propres yeux aussi. Je suis allé pour la première fois à Cannes, à 54 ans. À 54 ans, je suis allé à Cannes pour la première fois avec Thérèse. Et à partir de ce moment-là, le public m'a donné une espèce de liberté que j'ai d'ailleurs utilisée d'une façon extrêmement violente en faisant un film après qui s'appelle Liberame sur un pays qui est pris en main par un régime fasciste. Et je suis passé de
1,5 million.
1,5 million à 24 000 entrées.
Voilà. C'est bien ça compris. Que je voulais vous dire.
J'ai tout compris. J'ai tout compris.
Et si on vous admire, c'est justement pour ça. Je suis pas sûr qu'on ait envie d'être à votre place. C'est très difficile ce que vous faites. Très difficile, monsieur Cavalier.
J'ai compris.
J'espère que vous aurez 50 ans de bonheur pour vous remettre de tout ce travail.
J'ai compris la leçon.
Thérèse ressort en salle et en DVD. Et l'homme de la cave sort mercredi prochain. On se retrouve après Laura Cahen, désarmée. Les sorties de la semaine, on va commencer par Tralala, comédie musicale signée Arnaud et Jean-Marie Larrieux. Tralala, c'est Mathieu Amalric, chanteur des rues à Paris, rencontre la Vierge qui lui dit surtout ne soyez pas vous-même. Il part à Lourdes où justement on le prend pour un autre. C'est une sorte de remake un peu foutraque et musical de Martin Guerre qui frise, bon, selon moi, le spectacle de patronage est embarrassant. D'autres appellent cela de l'autoparodie.
Ah non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est de Paris à Lourdes, les frères Larrieux qui enchantent un monde quotidien comme savait si bien le faire Jacques Demy, et la filiation, elle est assumée. C'est la quête du plaisir et l'ouverture aux autres avec effectivement ce mot d'ordre absolument incroyable, ne pas être soi-même. En ces temps où on n'arrête pas de nous inculquer effectivement à travers des gourous, des conseils en psy, en psa, en je ne sais trop quoi, d'être soi-même, ça serait important est l'alpha et l'oméga de nos vies, ne pas être soi-même, voilà un magnifique programme. Et il est porté par Philippe Catherine, Jeanne Chéral, Bertrand Belin, Étienne Dao, Dominique A. Croyez-moi, Balasco qui chante de Dominique A. Ça, c'est bien. Ça, c'est amusant. Ça change du reste. Et Bertrand Belin qui devient acteur aussi. Une immense liberté traverse ce film. Un immense plaisir de filmer. Un immense plaisir d'écouter ces actrices et ces acteurs chanter. C'est tellement, tellement euphorisant. C'est tellement ce dont on a besoin en ce moment. Et ça s'appelle Tralala.
Mourir peut attendre, c'est le nouveau James Bond signé Cary Fukunagal. Donc, c'est le dernier avec Daniel Craig, c'est le plus cher, de 150 millions de dollars. Le plus long, 2h43 pour cette suite du Spectre, qui commence plutôt bien d'ailleurs. Une scène très angoissante dans une maison perdue dans la glace. La suite, tout le reste, est crépusculaire. C'est presque une tragédie, ce film. Bond ne s'est jamais vraiment remis de la mort de son grand amour, qui était incarné par Eva Green, malgré sa liaison avec Madeleine Swann, Léa Seydoux. Et tous ces traumas teintent ce film et rendraient presque secondaire l'intrigue principale, qui est retrouver une redoutable arme biologique qui cible ses victimes selon leur ADN. Détenu par un méchant super fade, c'est Rami Malek. Alors que reste-t-il de Bond? Une impressionnante poursuite en voiture en Italie, une scène plutôt rigolote à Cuba. Sinon, le film est sentimental, sans émotion, interminable. C'est ni un grand film, ni surtout un bon James Bond.
Oui, je suis assez d'accord, on peut passer rapidement. Enfin, c'est bizarrement une sorte de mélo familial avec la perte du doudou compris. Oui. On n'y reviendra pas plus, mais enfin, c'est assez curieux pour James Bond.
Et c'est plutôt un adieu à Daniel Craig. Que...
Oui,
c'est
un adieu curieux. Définitif, c'est et curieux. Peut-être que c'est le film de trop, et le Bond de trop pour Craig.
Mon Légionnaire, c'est de Rachel Lang. Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun, la Légion étrangère, leur nouvelle famille. Ce film raconte leur histoire, celle des femmes qui luttent pour garder leur amour bien vivant, celle des hommes qui se battent pour la France. La réalisatrice, ancienne réserviste dans l'armée, s'est un jour posé cette question, pas tant sur l'engagement, mais plutôt sur le retour des soldats après des mois d'absence, après l'intensité et la cohésion des hommes sur le terrain. Et c'est ce qu'elle filme le mieux dans ce film. L'intime, l'attente, la vie entre femmes, leur bulle, les couples qui ne se comprennent plus, de monde finalement hermétique.
Oui, c'est ce qu'on retiendra certainement, avec peut-être finalement au centre du film, non pas Louis Garrel, avec lequel on peut en Légionnaire avoir quelques doutes de crédibilité, mais c'est pas le problème. C'est qu'il y a une actrice qui s'appelle Ina Maria Bartraité, qui est peut-être au cœur même du film. Elle, c'est là, elle voudrait être la femme d'un de ces légionnaires. Et elle est vraiment, il y a une scène de danse avec elle, par exemple, qui prouve que Rachel Lang sait filmer, qui prouve que Rachel Lang a envie de faire du cinéma. Oui. C'est peut-être paradoxalement ce qui nous intéresse le plus et qui est malheureusement pas le propos essentiel du film. Mais il y a comme ça des choses dans des films, il faut accepter que la pépite vient à un moment donné et qu'on l'attrape et que nous, spectateurs, au fond, on soit attrapés par ça.
Gaza, mon amour, c'est une comédie romantique palestinienne, tient de deux frères, Arabe et Tarzan Nasser.
Alors, s'appeler Tarzan et Arabe Nasser, d'abord, franchement, ils ont raison de faire du cinéma, parce qu'au moins, ils ont les noms pour ça. Après un premier film qui s'appelait Dégradé. Oui, alors, c'est charmant, c'est vif, c'est burlesque, c'est humoristique. Et c'est à Gaza, et donc on se dit, tiens, mais quelqu'un l'a déjà fait, il s'appelle Elie Souleymane, et il l'a fait peut-être, et certainement même beaucoup mieux, c'est-à-dire que traiter ces petites vignettes, ces petits aspects pittoresques de la vie à Gaza, mais aussi tragique, de façon effectivement absolument burlesque, presque à la Keaton parfois, Souleymane le fait très très bien. Ici, on est un petit peu en retrait, et on retiendra néanmoins le casting avec Yamabas en tête.
Petite sœur de signée de deux femmes, Véronique, oui, Raymond et Stéphanie Chua. Un comédien berlinois de talent tombe très malade. Sa sœur jumelle, ancienne dramaturge, tente de le faire remonter sur scène. C'est une histoire d'amour filial, gémellaire, ou comment la mort prochaine de l'un fait renaître l'élan vital de création chez l'autre. La mise en scène est classique, certes, mais le duo d'acteurs est exceptionnel.
Exceptionnel, il y a notamment Nina Hoss, qu'on a vu chez Christian Petzold. Il y a le metteur en scène Thomas Ostermeyer, grand, immense metteur en scène, oui, allemand, qui traverse tout le film, oui, avec son interprète, monsieur Edinger, qu'on avait vu dans Hamlet, dans la cour d'honneur, qui était absolument sublime. Il est question de théâtre, il est question de musique avec Brahms, il est simplement question du jeu, et je pense que c'est un film qui peut vous plaire, François Cluzet, parce que vraiment, la question du jeu, jouer contre tous, jouer toujours et encore, c'est une très très belle déclaration d'amour au cinéma. Et puis, en majesté, Marthe Keller, mère, oui, vampirique, on ne voit pas assez Marthe Keller au cinéma, et ouais, là, elle a un rôle exceptionnel.
Petite sœur, ça s'appelle.
Oui.
Et enfin, Delphine et Carole Insoumuse, on se connaît, c'est la rencontre entre l'actrice mythique Delphine Seyrig et l'artiste Carole Roussopoulos, au cœur du féminisme des années 70, avec une petite caméra.
Très bel hommage.
Très
oui.
Politique.
Oui, très politique. Très bel hommage aux combattantes de ces années-là, aux combattantes féministes, avec deux muses, effectivement, comme le titre l'indique, Delphine Seyrig et son amie Carole. C'est absolument magnifique parce que ça retrace toutes ces années-là avec des archives, des entretiens, des extraits de films. Ça montre combien Delphine Seyrig nous manque.
Un petit mot sur une première édition, parce que ce sont des passionnés du festival Cinémo du 13 au 16 octobre au cinéma Max Linder de Ribérac en Dordogne, avec parrainé par Nicolas Boukrieff, le cinéaste, et les écrivaine Maïlys de Kerangal, avec des films comme Possession, Requiem pour un massacre, Corniche Kennedy ou Made in France. Voilà, c'est dit.
Tant qu'on en est au festival, on vous donne rendez-vous dès à présent, samedi prochain, à 10h, au Festival Lumière à Lyon. Vous y êtes conviés et nous y recevrons notamment une certaine Jane Campion.
Les cadeaux pour nos invités.
Alors, le même.
Et pardon, et un hommage aussi, excusez-moi, à Bertrand Tavernier.
Oui,
et un hommage à Bertrand Tavernier. Absolument, vous avez bien raison, François Cluzet, de le signaler. Pardon. Et là, c'est un livre pour vous, à chacun le même volume de Chabrol par Antoine Debecq, chez Stock. Tout simplement parce que un certain François Cluzet a dit un jour à propos de Chabrol, il possédait une forme de grâce, la vulgarité ne l'atteignait jamais. Fin de citation. Voilà, c'est un merveilleux boulot. Il a déjà fait pareil pour Chabrol, il a déjà fait pareil pour Truffaut et il récidive 700 pages. On a envie de tout revoir de Chabrol. Et puis pour chacun...
Un cavalier, attendez, voilà.
Pardon.
Produit mon premier court-métrage. Voilà, un Américain qui est passé avec les cousins. Au cinéma, quand le court-métrage était obligatoire avant le long-métrage.
Oui. Grâce lui soit rendu.
Bon, mais je vais pas dormir pendant une semaine, prévenez tout le monde.
Et un DVD chacun.
Ouais. Le journal d'une femme de chambre de Jean Renoir, version américaine avec Paulette Godard pour Alain Cavalier, c'est chez Sidonie. C'est une très très belle version avec deux livrets, des bonus. Et puis un film que moi j'ai découvert qui s'appelle Les Allemands traqués pour vous, François Cluzet. Norman Foster avec deux de vos collègues, John Fontaine et Burt Lancaster. S'il vous plaît, c'est un polar noir de ces noirs édité chez Rimini.
On est très en retard, merci à Alain Cavalier, merci François Cluzet, merci Claire Destacan, Laurent Thomas, Christophe Magère et Thierry Dupin. Merci, au revoir.